Les mystères du Palais Royal, troisième partie. Chapitre 13. Le métier de la mère Moloch. La vieille femme, nous le savons, s'était couchée tout habillée. Hébé ne s'était pas couché du tout. Au cri poussé par M. de la Tremblay, les deux femmes furent donc sur pied à l'instant même. Elles virent Raoul assis sur le bord de son lit et défaisant d'une main fiévreuse le paquet de billets de caisse. « Que d'argent !» pensa Hébé. « Oh oh !» se dit la mère Moloch, « j'ai bien fait de le secourir. Il est riche !» Raoul, ivre de joie d'avoir retrouvé miraculeusement un trésor qu'il croyait si bien perdu, s'aperçut seulement alors qu'il n'était pas seul dans la mansarde avec la jeune fille. Il ne put retenir un geste d'étonnement à l'aspect de la mère Moloch. Plus étrange encore dans ce moment que la veille au soir. Car pendant la nuit, le mouchoir rouge qui lui servait de turban s'était détaché de ses grands cheveux gris qui, mêlés de mèches complètement blanches, tombaient en désordre sur ses épaules et donnaient à son visage bronzé un cachet étrange et sinistre. Le geste de Raoul n'échappa point à la mère Moloch. « Ah » murmura-t-elle avec amertume, « je sais ce qui se passe en vous, mon gentilhomme. Vous me trouvez vieille et laide, n'est-ce pas ? Si vieille et si laide que je vous fais presque peur. Et pourtant, j'ai été belle autrefois, autant et plus peut-être que cette jeune fille que vous voyez là et qui est ma fille. Dans ce temps-là, vous ne vous seriez point détournée de moi avec effroi et dégoût. Et cependant, quelque vieille et laide que je sois aujourd'hui, il est très certain que sans moi à l'heure qu'il est, vous n'existeriez plus. Mais madame, s'écria vivement Raoul, vous me prêtez des sentiments qui sont bien loin d'être les miens. La surprise qui tout à l'heure se manifestait sur mon visage doit vous sembler naturelle. Songez que je m'éveillais dans un lieu inconnu et que je retrouvais une somme considérable que je devais croire perdue. Songez qu'en ce moment même, rien ne m'empêcherait de croire que je suis mal éveillée et que je continue un rêve singulier. Daignez donc m'excuser. Et surtout, ne doutez point de la profonde reconnaissance que m'inspirent l'hospitalité et les soins que vous m'avez accordé, à moi, un inconnu pour vous. » La vieille allait répliquer. La fille du diable se hâta de l'interrompre. « Monsieur, » dit-elle à Raoul en baissant les yeux, « ma mère s'était trompée, elle le comprend bien. Elle regrette, j'en suis certaine, l'amertume et la vivacité de ses paroles. Quant aux soins dont vous parliez, nous avons été heureuses de pouvoir vous les offrir, et nous remercions le ciel qui a permis qu'ils ne fussent point infructueux. » Ces quelques mots, prononcés d'une voix douce et presque tendre, causèrent à Raoul une impression à peu près pareille à celle que ressent un voyageur, épuisé de fatigue et de chaleur, et dont une brise fraîche et parfumée vient caresser le front. Il remercia la jeune fille avec une vivacité affectueuse. Puis il demanda quelques explications au sujet de tout ce qui s'était passé depuis le moment où il avait perdu connaissance. Ces explications lui furent données en peu de paroles par Hébé, et si mauvais croyant que fut Raoul, il se vit néanmoins forcé de reconnaître que la main de Dieu l'avait visiblement protégé. Tout autre à sa place, en effet, aurait succombé 10 fois. Tandis que la jeune fille parlait, la mère Moloch s'occupait à mettre une apparence d'ordre dans le taudis que nous avons suffisamment fait connaître à nos lecteurs. Et tout en rangeant, ou disons mieux, en faisant semblant de ranger, elle ne perdait pas de vue la poche droite de l'habit de Raoul. C'est que le jeune homme venait de replacer précisément dans cette poche l'alias de billets de caisse qui exerçait sur la mère Moloch une véritable fascination. Cependant, après avoir épuisé le cercle des questions relatives à lui-même, Raoul se préoccupa des objets qui l'entouraient et dont certes quelques-uns ne pouvaient manquer de le surprendre. Le chat noir surtout, et le corbeau déplumé, qui, tous deux et côte à côte sur la table de chêne, semblaient vivre en parfaite harmonie, l'intriguaient au plus haut point. Il interrogea la fille du diable. Ce fut la mère Moloch qui répondit. « Ah, mon gentilhomme » fit-elle en se campant devant Raoul, la main haute, le poing sur la hanche, et en rejetant en arrière les longues mèches de ses cheveux. « Ce sont deux des outils de mon métier. »«
Votre métier ?» répéta le jeune homme.
« Oui. » « Quel est-il donc ?»« Un bon métier, allez, celui qui devrait être le premier, le meilleur de tous, et me faire riche comme une reine.
un métier à gagner chaque jour des tonnes d'or et de diamants, si le monde était juste, et qui cependant nous laisse, ma fille et moi, mourir de faim ou à peu près. » La mère Moloch s'interrompit pour respirer. Raoul ne comprenait pas le moins du monde où elle en voulait venir. La vieille femme poursuivit. « Vous ne devinez pas ?»«
Non, je l'avoue. »«
Eh bien, je lis dans le passé. Je connais le présent. Je prévois l'avenir. »
« Ah ! » fit Raoul.
« Comprenez-vous maintenant ?»«
Je comprends que vous êtes une illuminée, une prophétesse, une sorcière. »
« Oui, je suis tout cela. Je commande à des esprits dont la voix me parle un langage mystérieux et que moi seule je puis entendre. Le livre du destin n'a point de secret pour moi, et j'en tourne les pages déjà pleines aussi facilement que celles qui, vierges encore, ne se rempliront que plus tard. »
La vieille femme prononça cette dernière tirade d'une façon mystique et avec un sourire enthousiaste. Elle semblait de bonne foi. Raoul eut grand-peine à contenir le sourire railleur qui commençait à se dessiner sur ses lèvres. Il y parvint cependant et il demanda « Les esprits qui sont à vos ordres, vous obéissent-ils sans cesse ? Qu'entendez-vous par là ? J'entends vous demander si, à quelque heure du jour et de la nuit que vous les interrogiez, ils vous répondent.
Sans doute.
Pourrais-je en faire l'expérience ?
Oui, certes.
Quand cela ?
Quand vous le voudrez, mon gentilhomme.
Aujourd'hui ?
Soit.
Tout de suite ?
Cela se peut.
Eh bien, ne remettons pas davantage.
Appelez vos démons familiers. Parlez-leur. Qu'ils vous répondent.
Remettez mon passé sous mes yeux.
Initiez-moi au mystère de mon avenir.
Raoul venait de parler avec un sérieux parfait, mais il n'avait pu enlever à son accent un imperceptible cachet de raillerie. La mère Moloch comprit parfaitement cette nuance.
« Vous êtes incrédule, mon gentilhomme, » répliqua-t-elle aigrement.
« Mais peu importe. Par la façon dont mes démons familiers, comme vous dites, me mettront au fait de votre passé, vous pourrez juger s'ils me trompent en me parlant de votre avenir. »
« Commençons, » dit Raoul.
La mère Moloch fit un signe. Aussitôt, Hébé se revêtit de sa mante grise. Elle en rabattit le capuchon sur son visage, et quoique avec un regret manifeste, elle se dirigea vers la porte.
« Comment, mademoiselle ? » s'écria Raoul. « Vous partez ? Pourquoi donc ?»
La mère Moloch intervint. « Il est impossible, dit-elle, que ma fille reste auprès de nous et assiste à l'évocation qui va avoir lieu. Deux personnes seulement peuvent être présentes, vous et moi. Celui qui veut interroger et celle qui doit répondre.
Et si nous étions trois ? Demanda Raoul.
L'esprit dont j'entends la voix ne me parlerait point, répliqua la mère Moloch.
Vous voyez bien que je suis de trop, fit Hébé. Je m'en vais, mais je reviendrai.
Et elle disparut, légère, par la porte entr'ouverte, en se retournant à demi et en jetant sur Raoul un dernier regard.
Maintenant, dit Monsieur de la Tremblay à la vieille femme. « Maintenant qu'une voici seule, vous pouvez commencer, n'est-ce pas ?»«
Oui.
Eh bien, ne perdons pas de temps. »«
Nous n'en perdons pas.
Les préparatifs sont-ils longs ?»«
Quelques minutes, tout au plus. »«
Mettez-vous à l'œuvre. »«
M'y voici. »
La mère Moloch ouvrit le bahut de chêne dont nous avons parlé dans un des chapitres précédents. Elle y prit une petite fiole qui contenait quelques gouttes d'huile, reste de la provision de la veille. Elle humecta de ses quelques gouttes la mèche de la lampe de cuivre, qu'elle alluma et qu'elle replaça sur la table. Puis, elle étendit devant l'étroite fenêtre un lambeau d'étoffe épaisse, de façon à intercepter complètement la clarté du jour. Chapitre 14. L'évocation. Grâce aux premiers préparatifs dont nous venons de donner le détail, la mère Moloch créa dans la mansarde une nuit factice, à peine combattue par une clarté pâle et tremblante.
« Oh oh !» fit Raoul en riant. « Il paraît que vos esprits aiment l'obscurité. »«
Ce ne sont pas pour rien des esprits de ténèbres !» répondit la vieille femme d'un ton si grave et si solennel que le jeune homme se demanda malgré lui. « Serait-elle donc véritablement convaincue ?»
La mère Moloch mit une chaise à côté de la table.
« Asseyez-vous là.
dit-elle à Raoul en désignant cette chaise. Monsieur de la Tremblay obéit. La vieille femme se tint debout à côté de lui. « Donnez-moi votre main, » fit-elle. Raoul lui tendit sa main droite. Elle la prit. Elle l'examina pendant un instant en silence, à la lueur de la petite lampe, puis elle la laissa retomber. « Il faut que je vous interroge, » murmura-t-elle ensuite. « Faites. Mes questions vous sembleront vagues et insignifiantes. Répondez-y, cependant. »«
J'y répondrai. »
« C'est bien. Quel est l'animal que vous aimez le mieux ?»«
Le cheval. »
« Quelle est la fleur que vous préférez ?»«
La rose. »
« Quel est le parfum qui vous plaît davantage ?»«
Celui de la fleur que je viens de nommer. »
« Quelle est votre passion dominante ?»«
Je l'ignore moi-même. »
« Quel est votre désir le plus ardent ?»«
La vengeance. »
La mère Moloch se tut et garda le silence pendant un instant. Raoul rompit le silence et demanda
« Est-ce tout ?»«
Oui, » répliqua la vieille femme.
« C'est tout, quant à présent du moins. »
Après avoir prononcé ces mots, la mère Moloch ouvrit pour la seconde fois l'armoire où elle avait pris la fiole d'huile quelques instants auparavant. Elle en tira un jeu de cartes qu'elle apporta sur la table. Ces cartes, dont l'état de vétusté semblait tel qu'on pouvait les croire contemporaines de celles inventées par Jacquemin Gringonneur l'Imagier pour distraire dans sa démence le pauvre roi Charles VI, étaient de grande dimension, usées à tous les angles par le frottement et enduites d'une couche grasse et épaisse, qu'il était sinon impossible, du moins très difficile, de distinguer les figures imprimées et peintes sur leur carton gluant. La mère Moloch battit ses cartes. Puis elle tendit le jeu à Raoul en lui disant « Coupez !» Le jeune homme avança la main droite. «
Non, non !»
s'écria précipitamment la mère Moloch. « La main gauche, la main gauche !» Le bras gauche de Raoul était encore engourdi par la saignée récente. Cependant, il essaya de couper et y parvint, non sans peine. La mère Moloch étala alors les cartes sur la table dans un ordre particulier. Avec un morceau de craie blanche, elle traça un grand cercle dans lequel ses cartes se trouvaient enfermées. Elle prit dans une écuelle de terre cuite une poignée de grains de millet et elle éparpilla ses grains, au hasard, sur toutes les figures du jeu. Raoul la regarda faire avec une curiosité et un intérêt qu'il ne parvenait point à se dissimuler à lui-même. La vieille femme paraissait entièrement absorbée par les soins étranges auxquels elle se livrait. Par moments, les rayonnements d'un fanatisme intérieur venaient briller dans ses yeux sombres et profonds. Le chat noir, debout sur la table, faisait le gros dos en ronronnant et tournait vers sa maîtresse ses prunelles rondes et jaunes qui étincelaient dans la pénombre. Le corbeau pelé battait de l'aile et épluchait son maigre corps avec son bec dur et pointu. La mère Moloch passa sa main à deux ou trois reprises sur le dos du chat. Mais elle eut soin de le caresser à rebrousse-poil. Quelques étincelles électriques jaillirent de son épaisse fourrure. Elle prit ensuite le corbeau et le posa au milieu des cartes. L'animal se mit aussitôt à sautiller sur une patte, becquetant à droite et à gauche des grains de millet. La mère Moloch suivait avec une extrême attention chacun de ses mouvements et observait ses évolutions capricieuses et les figures sur lesquelles il s'arrêtait un peu plus longtemps que sur d'autres. Cela dura 7 ou 8 minutes. Au bout de ce temps, l'horrible oiseau sembla repu et fatigué. Il s'arrêta. Il cacha sa tête sous son aile et parut s'endormir. La vieille femme ne le dérangea point. Pour la troisième fois, elle ouvrit l'armoire et elle en tira un flacon de cristal, long de 2 pouces à peu près, et qui était à moitié rempli d'une liqueur jaune et transparente, ressemblant à des topazes en fusion. Elle versa dans une cuillère de fer une seule goutte de cette liqueur. Elle s'assit en face de Monsieur de la Tremblay et elle lui dit « Quand j'aurai bu, l'extase viendra, et avec elle l'esprit prophétique. Aussitôt qu'à des signes non équivoques vous serez sûr qu'il s'est emparé de moi, interrogez, je répondrai. Si quelques-unes de mes réponses vous semblent obscures, c'est à vous de les interpréter de votre mieux. Je ne pourrai que vous répéter les paroles que l'esprit murmurera à mon oreille. Lorsque l'extase aura cessé, ne me questionnez pas au sujet de ce que je vous aurai dit. Je ne me souviendrai de rien. » Ensuite, la mère Moloch approcha de ses lèvres la cuillère de fer et but la goutte de liqueur. Une demi-minute ne s'était point écoulée qu'une véritable transfiguration sembla s'opérer chez la vieille femme. Les rides de son visage s'effacèrent. On eût dit qu'un sang jeune et chaud revenait gonfler ses veines et donner à sa peau un éclat, une transparence juvénile. Ses lèvres se colorèrent. Un feu surnaturel mit des rayons presque éblouissants dans ses yeux. Pendant quelques secondes, ce ne fut plus la sorcière hideuse et repoussante que nous connaissons. Ce fut une femme jeune encore, et d'une beauté sauvage, mais puissante. Les narines gonflaient, frémissaient. Les cheveux, rejetés en arrière, semblaient dans l'ombre, noirs comme la nuit. Cette magique métamorphose ne fut d'ailleurs pas de longue durée. À ces symptômes de régénération succédèrent sans transition des signes de fatigue et d'épuisement. Les rides du front et des joues reparurent plus profondes que jamais. La bouche se creusa. Le cercle de bistre, tracé autour des orbites charbonnées, sembla s'élargir et s'assombrir. Bientôt la mère Moloch s'affaissa sur elle-même. De grosses gouttes de sueur perlèrent à ses tempes. Les veines de son cou se gonflèrent, les muscles de ses mains se raidirent. Ses yeux s'ouvrirent démesurément et devinrent fixes et sans regard, comme ceux d'un mort. Puis des frissons convulsifs parcoururent tout son corps. La vieille femme se trouvait en proie à une obsession évidente et douloureuse. Enfin, ses lèvres s'entr'ouvrirent et elle murmura d'une voix rauque et étranglée. « Il vient, il vient, je le sens, je le vois, il approche, il est venu, il est là. Qui ?» demanda Raoul d'une voix presque aussi tremblante que celle de la mère Moloch. « L'esprit, » murmura la sorcière. « Alors, je puis vous interroger ?»« Oui. » « Et vous me direz la vérité ?»« Vous en jugerez. » »« Comment le pourrais-je ? Je ne connais pas l'avenir. » »« Mais vous connaissez le passé, et quand je vous aurai montré le vôtre face à face, vous croirez sans peine que je puis de même vous dévoiler l'avenir. » La mère Moloch parlait ainsi d'une façon lente et solennelle. Les accents de sa voix n'avaient rien d'humain. C'était un timbre bizarre, métallique en quelque sorte, et que nous ne pouvons expliquer par aucune analogie. À voir cette vieille femme raide, immobile, les yeux fixes, la bouche entr'ouverte, on eût dit un cadavre. À l'entendre prononcer des paroles étranges avec une voix plus étrange encore, on eût dit un démon. Un frisson passa sur les cheveux de Monsieur de la Tremblay. Pour la première fois de sa vie, le jeune homme avait peur. Chapitre 15. L'avenir. Interrogez, interrogez, balbutia la mère Moloch. Je vous l'ai dit. L'esprit est là, et il ne faut pas qu'il me tourmente en vain. Ces quelques mots rappelèrent Raoul au sentiment de sa situation. Son scepticisme, un instant chassé par l'effroi, reparut plus vivace. Il crut à quelque charlatanisme, à quelque jonglerie, et il se promit de rire à part lui des révélations et des oracles de la sorcière. « Voyons, demanda-t-il d'abord, qui suis-je? Le savez-vous? » « Je sais, répondit-elle sans hésitation. Je sais que vous êtes venu au monde sous une étoile néfaste et perfide. Votre position est indéfinissable. Vous n'êtes ni roturier, ni gentilhomme. Parti de très bas, vous avez été au moment d'atteindre très haut. Mais, je le répète, votre étoile est funeste, et le hasard semble n'avoir fait beaucoup pour vous, pendant un moment, qu'afin que votre chute soit plus lourde et plus cruelle. » La mère Moloch se tut durant quelques minutes. Raoul ne respirait pas. Il écoutait, haletant et stupéfait, cette rapide et merveilleuse analyse qui, en quelques mots, résumait sa vie entière. La vieille femme poursuivit. « Vous portez un nom qui n'est pas le vôtre, et que cependant nul n'a le droit de vous contester. Prenez un titre qui ne vous appartient point, et que cependant on ne peut vous ravir. Une fortune immense devait vous appartenir. L'influence de votre étoile vous l'a enlevée. Aujourd'hui, vous êtes riche, mais c'est grâce au hasard, et ce qu'il vous a donné aujourd'hui, le hasard peut vous le reprendre demain. » La mère Moloch s'arrêta de nouveau. Raoul ne doutait plus. Il croyait fermement à la seconde vue mystérieuse et surnaturelle dont la vieille femme semblait douée. Aussi, laissant de côté le passé, il se hâta de l'interroger sur l'avenir. « Cette influence fatale dont vous me parliez tout à l'heure, cessera-t-elle un jour de me persécuter ? » demanda-t-il. « Non. Jusqu'à votre dernière heure, les rayons de la mauvaise étoile brilleront sur votre vie. Ainsi, je ne serai jamais heureux ? Jamais, du moins dans le sens absolu qu'on doit attacher à ce mot. Parfois, vous croirez au bonheur. Parfois, tout semblera vous sourire. Prenez garde, votre destinée, vos passions et vos vices changeront en calamité et en douleur ces prospérités apparentes et ressusciteront pour vous le symbole antique du serpent sous les fleurs. N'existe-t-il donc aucun moyen d'éviter tous ces malheurs prédits par vous ? Il en existe un.
Lequel ?
Je dois me taire.
Pourquoi ?
Parce que la voix d'un ange de lumière, et non celle d'un ange des ténèbres, pourrait seule vous indiquer le chemin à suivre.
Parlez !
Je ne puis.
Je le veux.
Eh bien, retenez ces trois mots.
Charité, prière et pardon.
En parlant ainsi, la mère Moloch semblait souffrir une véritable torture. Sans doute, le mauvais esprit dont elle était l'esclave la flagellait pour la punir de conseiller ainsi la vertu.
« Le pardon ? »
répéta Raoul d'une voix sombre.
« Oh, s'il faut pardonner pour être heureux, je dois dire adieu le bonheur. »
Les éclairs d'une joie infernale illuminèrent le front et dilatèrent les narines de la vieille femme. Ses souffrances parurent cesser aussitôt.
« C'est bien, » murmura-t-elle. « C'est bien. »
Raoul continua. « Vous savez que je rêve la vengeance, » dit-il.
« Je le sais. »
« Cette vengeance s'accomplira-t-elle ? »
« Oui. »
« Telle que je la rêve ? »
« Oui. »
« Splendide ? Éclatante ? Implacable ? » ?»«
Oui, 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 »
répéta trois fois la sorcière. « Ainsi, ceux qui m'ont fait pleurer et souffrir, souffriront et pleureront plus que moi. Ils pleureront des larmes de sang. Ils maudiront le jour qui les a vus naître. »
« Quoi ? » s'écria Raoul avec enthousiasme. « Quoi ? J'aurai ma vengeance telle que je la veux ? Telle que je la rêve ? Telle qu'il me la faut ? Et vous prétendez que je ne serai point heureux ? Allons donc, femme, vous êtes folle ! »
La mère Moloch ne répondit point. Seulement, un sourire d'une effrayante expression vint plisser ses lèvres sans couleur.
Il n'y a en ce monde que trois bonheurs, réels et sérieux, poursuivit le jeune homme. La fortune, la vengeance et l'amour. Je possède l'un. Vous m'avez promis l'autre. Aurais-je le troisième ?
L'amour ?
Oui.
Vous me demandez sans doute si vous serez aimé.
C'est là ce que je veux savoir en effet.
Eh bien, vous le serez.
Beaucoup ?
Oui, beaucoup. Vous le serez trop.
Que voulez-vous dire ?
Je veux dire que la plus grande partie des malheurs qui vous atteindront, des fautes et même des crimes que vous commettrez, auront pour origine l'amour que vous aurez respiré ou ressenti.
« Des crimes ? » répéta Raoul.
« Prétendez-vous donc que je commettrai des crimes ? » ?»«
Je prétends cela.
Sérieusement ? » « Regardez-moi, » murmura la mère Moloch, « et recommencez votre dernière question, si vous l'osez. » Involontairement, Raoul fixa ses regards sur la vieille femme. Sa physionomie lugubre et terrible exultait tellement toute idée de plaisanterie que M. de la Tremblay ressentit un certain malaise. Mais il s'efforça de se dominer et il reprit.
« Des fautes, soit. Mais quant au crime, permettez-moi de vous affirmer, madame, que votre génie familier se trompe. Où vous trompe ? »
La mère Moloch hocha la tête d'une façon caractéristique. Comme vous voudrez, fit-elle ensuite. Vous avez questionné, j'ai répondu. Libre à vous de ne pas me croire. Raoul reprit ses interrogations. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose dont je doive me défier d'une façon plus particulière ? Demanda-t-il. Oui.
Quoi ?
Une femme. Quelle est cette femme ? Je ne puis vous la désigner autrement qu'en vous disant qu'elle est jeune et belle. Est-ce que je la connais ?
Oui.
L'ai-je vue souvent ?
Deux fois.
Y a-t-il longtemps de cela ? Fit le jeune homme qui pensait à Émeraude.
Je ne puis répondre, dit la mère Moloch.
Soyez sur vos gardes. Voilà tout ce qu'il m'est possible de vous conseiller. Mais n'insistez pas. Et si vous avez quelque autre chose à me demander, ne perdez point de temps. Car l'esprit se fatigue d'obéir, et je sens qu'il commence à se retirer de moi.
Raoul reprit. Vivrai-je longtemps ?
Plus longtemps peut-être que vous ne le voudriez vous-même.
Oh ! Voilà une bonne réponse, murmura Raoul en souriant. La durée de ma vie sera telle que j'aurai le temps de m'en fatiguer.
Bravo, j'en accepte l'augure. Les lèvres de la mère Moloch eurent de nouveau leur sombre et triste sourire.
Allons, allons,
dit la vieille femme d'une voix saccadée et presque indistincte. Une question encore, mais plus qu'une. Car avant que vous ayez eu le temps de compter jusqu'à 100, l'esprit sera parti tout à fait.
Raoul hésita. Qu'allait-il demander ?
20 interrogations différentes se croisaient à la fois sur ses lèvres. Cependant, il fallait se hâter.
« D'aujourd'hui en 10 ans, dit-il, que ferai-je ? »
« Il est trop tard, répondit la mère Moloch. Je ne puis vous le dire, mais je puis vous le montrer.
Comment ? Regardez sur la table.
C'est fait.
Qui voyez-vous ?
Un chat noir, un corbeau, des cartes étalées, et encore
une carafe en cristal de bohème,
remplie d'une eau transparente, n'est-ce pas ?
Oui.
Eh bien, prenez cette carafe.
Je la tiens.
Et levez-la à la hauteur de votre visage, de façon à l'interposer entre la lumière de la lampe et vos yeux.
C'est fait.
Maintenant, que vos regards se fixent sur cette carafe et ne s'en détache plus jusqu'à ce que vous ayez appris ce que vous désirez savoir.
Est-ce une mystification ? Pensa Raoul. Mais cette prétendue sorcière raille-t-elle ainsi ma crédulité ?
Et il fut au moment de déposer la carafe sur la table. Mais, la curiosité l'emportant, il obéit aux injonctions de la mère Moloch, et il attacha son regard avide sur les parois transparentes. Il ne vit d'abord que les jeux de la lumière qui donnaient à l'eau les tons nacrés de l'arc-en-ciel et faisaient scintiller comme autant de diamants les facettes du cristal. Puis, au bout d'un instant, soit illusion, soit réalité, il lui sembla que l'eau perdait sa transparence et prenait une blancheur laiteuse. À coup sûr, Raoul ne se trompait point, car une demi-minute après ce moment, la carafe parut remplie d'une épaisse vapeur. En face de cet incontestable phénomène, les superstitions, les terreurs, les tremblements du jeune homme revenaient en foule. Il avait peur, mais il regardait toujours. Bientôt, la vapeur se condensa autour des parois de cristal, laissant au milieu un espace vide. Raoul approcha son œil, et il vit. Il vit comme lorsqu'on regarde la scène d'un théâtre, à travers le canon d'une lorgnette. Le spectacle qui s'offrit à sa vue était triste et semblait n'avoir aucun rapport direct avec sa position présente ou à venir. C'était l'intérieur d'un souterrain servant de prison. Les murs étaient nus et formés de blocs énormes, arrachés des entrailles de la terre, sans doute par la main des titans. L'humidité souterraine avait mis sur ces murailles massives ses glacis verdâtres et ses moisissures. Un rayon de lumière pâle et froide pénétrait dans ce cachot, à travers une meurtrière étroite pratiqué à 15 pieds du sol. Ça et là, des chaînes rouillées, scellées à la muraille, pendaient côte à côte avec des instruments de torture, débris des mœurs barbares et sanguinaires du Moyen-Âge. Sur le sol inégal et fangeux, rampaient ces populations de froids reptiles et d'insectes hideux, qui vivent et se multiplient sans air et sans soleil, au fond des prisons souterraines et des citernes abandonnées. Raoul embrassa d'un coup ces sinistres détails, mais il lui sembla qu'aucune créature humaine ne subissait les douleurs de cette abjecte et épouvantable prison. Raoul se trompait. Peu à peu, son regard s'accoutuma à percer les profondeurs de ces ténèbres opaques. Alors, il distingua un objet lamentable qui lui avait échappé d'abord. C'était une femme. Une femme d'une jeunesse incontestable et d'une beauté tellement éclatante qu'elle résistait aux stigmates flétrissants de la maladie et de la douleur. Cette malheureuse créature était assise dans un angle de la prison, sur un amas de paille à demi pourri et le dos appuyé à la muraille. Sa tête renversée en arrière, ses bras pendant inertes le long de son corps, exprimait le désespoir le plus complet, le découragement le plus profond. Les traits amaigris de son délicieux visage étaient revêtus d'une pâleur si grande qu'on eût dit que le sang ne circulait point sous sa peau. Ses yeux étaient fixes et atones, et s'ils ne pleuraient pas, c'est que sans doute ils avaient tari la source des larmes. Ses longs et magnifiques cheveux noirs ruisselaient sur ses épaules dans un désordre qui montrait leur richesse. Cette malheureuse femme était vêtue, ou plutôt enveloppée d'une robe d'étoffe noire en lambeaux. « Mon Dieu !» se demanda Raoul en voyant cette immobilité et cette pâleur. « Mon Dieu, est-elle morte ?» La réponse ne se fit point attendre. Un bruit, insaisissable pour les oreilles de Raoul, se fit entendre sans doute dans le souterrain. La prisonnière tourna lentement la tête. Ses regards prirent une indéfinissable expression et se dirigèrent vers une poterne, située au-dessus d'un escalier de 5 à 6 marches. Raoul, lui aussi, regarda de ce côté. La poterne s'ouvrit. Un homme entra dans le cachot et descendit les marches, une à une. Cet homme était vêtu de noir. Il portait d'une main une cruche de terre remplie d'eau et de l'autre un pain de moyenne grandeur. La figure de cet homme restait plongée dans l'obscurité, et malgré toute son attention, Raoul n'en pouvait distinguer les traits. Ce visiteur fit quelques pas pour se rapprocher de la prisonnière. Avant d'arriver à elle, il devait, à un moment donné, traverser le faible rayon lumineux dont la meurtrière faisait l'aumône au cachot. Raoul attendait ce moment avec une anxiété étrange et fébrile. Le temps lui semblait long, car le visiteur allait lentement. Enfin, il atteignit la zone éclairée et sa figure sembla se détacher sur les ténèbres. Monsieur de la Tremblée poussa un cri sourd et laissa échapper de ses mains la carafe magique qui se brisa en 1000 éclats sur le sol. Dans l'homme vêtu de noir, il venait de se reconnaître.